que nous suivons pour les prédications. Chaque orateur est libre de choisir le sujet ou le texte qu'il souhaite aborder. Pour ma part, et comme pour Luc la semaine dernière, le choix, je trouve ça toujours difficile. Mais finalement, je me suis décidé pour partager avec vous un texte qui me parle particulièrement. Vous allez voir, c'est un texte relativement court, mais assez riche, assez dense. Alors j'espère qu'on arrivera à en ressortir avec quelques clés pour bien le comprendre et pour en retirer quelque chose aussi pour notre aujourd'hui. Alors ce texte est dans la lettre de Paul à Tite. Alors juste un bref rappel des faits. Donc nous sommes à quelques dizaines d'années après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Paul, qui a persécuté les chrétiens pendant quelques années, a rencontré Jésus de manière miraculeuse, il a été transformé, il est devenu un serviteur de Jésus. Il va voyager dans tout le bassin méditerranéen pour partager cette bonne nouvelle de la venue de Jésus. Mais non seulement il voyage, mais il va continuer, après être passé dans les villes, à aider les églises naissantes au travers de lettres qui sont arrivées jusqu'à nous. Alors vous connaissez forcément celles qui sont envoyées à différentes communautés, donc la lettre aux Colossiens, la lettre à l'église de Corinthe, et puis d'autres sont envoyées à d'anciens compagnons de voyage. Et ces anciens compagnons, il les a fait installer à certains endroits pour venir en aide à l'établissement des églises, pour servir les chrétiens dans ces endroits-là. Et donc parmi tous ces anciens compagnons de voyage, il y a Tite. Et donc le premier chapitre de la lettre nous apprend que Paul a laissé Tite en Crète pour qu'il achève de mettre de l'ordre dans les communautés chrétiennes sur place. Alors voilà un peu pour le contexte, et donc notre texte, lui, se trouve donc au chapitre 2, et on va lire donc les versets 11 à 14. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Comme je vous l'ai dit, ce texte est court, mais dense. Alors regardons ensemble le premier verset, si Martine, tu veux bien revenir dessus. Voilà. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Alors, je reviendrai plus tard sur le « en effet », mais donc commençons par regarder la suite. La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. De quoi est-ce qu'on parle là? Le salut, c'est quoi? Pourquoi la nécessité d'être sauvé? Sauvé de quoi? Le salut, en soi, c'est être délivré d'un mal ou du danger. La Bible nous apprend que l'homme a été créé à l'origine à l'image de Dieu, mais il s'est séparé de lui. La nature humaine a été défigurée par le mal qui s'emparait d'elle. Le salut vient donc délivrer de cela. Et comment? Par la grâce de Dieu. La grâce, c'est recevoir quelque chose que l'on ne mérite pas. Dans sa lettre qu'il écrit à Timothée, Paul a écrit ceci. C'est lui, Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Le plan de Dieu, le dessein de Dieu de toute éternité, nous dit ce texte, c'est d'offrir le salut. Comment ce plan est-il mis en œuvre? Par la venue de Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection, il a vaincu le mal et offre la vie, la vraie. Cette grâce, elle est offerte. Elle est offerte à tous, nous dit ce texte. Hommes, femmes, pauvres, riches, jeunes, vieux, elle est proposée, mais ne s'impose pas. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce condamné à mort aux États-Unis, George Wilson, au 19e siècle. Il est condamné à mort pour vol, et ses amis jouent de leur influence et arrivent à obtenir la grâce du président américain. Mais Wilson, le condamné, la refuse. Alors l'affaire passe devant la Cour suprême et la décision est prise finalement. Il sera pendu. Le pardon est un acte pour lequel l'acceptation est requise. S'il est rejeté, il ne peut être imposé. Un pardon refusé n'est pas valable et sans effet. Alors, après avoir rappelé à Stitt ce constat au sujet du salut, voulu toute éternité et acquis en Christ, ce salut proposé à tous les hommes, Paul va nous montrer que la grâce de Dieu ne s'arrête pas là. La grâce de Dieu est agissante. J'en lis jusqu'au verset 12. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. La grâce de Dieu est active. Elle nous amène à fuir quelque chose et à poursuivre autre chose. La grâce de Dieu agit en nous éduquant. Autant, l'acquisition du salut est quelque chose d'instantané. À partir du moment où on accepte l'offre de Dieu, autant là, il s'agit d'un chemin. Dieu veut nous instruire, nous éduquer. C'est une action continue de sa part dans nos vies. Du moment de notre conversion jusqu'à notre mort. Pour ma part, je n'en suis qu'au balbutiement avec Maïlis, mais je sais que l'éducation est un chemin de longue haleine. C'est prendre quelqu'un par la main, l'accompagner sur ce chemin. Et ici, quel est l'objet de cette éducation? Comme je disais, c'est nous amener à fuir certaines choses et à en poursuivre d'autres. À nous détourner de tout mépris de Dieu, rejeter les passions des gens de ce monde et vivre une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Le mépris de Dieu, l'impiété, c'est notre premier problème. C'est vivre sans considérer Dieu. Ce sont les désirs auxquels ce monde nous pousse dans une direction opposée à Dieu. Ce sont les désirs d'un monde séparé de son Créateur. C'est vivre à notre sauce. Vivre avec les mêmes passions que tout le monde autour de nous. Nous sommes invités à renoncer à cela. Paul et d'autres auteurs dans le Nouveau Testament les détaillent dans d'autres textes. Par exemple, dans sa lettre aux Colossiens, Paul nous parle de l'inconduite, de l'impureté, des désirs mauvais, de la soif de posséder. Pierre, lui, va parler de débauche, de passions mauvaises, d'ivrognerie, d'orgie, de culte idolâtre. Renoncer, c'est une action déterminée. Et cela commence dans nos pensées, dans nos choix. Pour ma part, je sais, par exemple, que si je passe à côté d'une pâtisserie, avec quelques pièces en poche à l'heure du goûter, je me connais et très certainement je m'y arrêterai pour prendre une viennoiserie. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que j'avais ces quelques pièces en poche? Pourquoi j'ai fait ce détour pour passer devant cette boulangerie? Manger une pâtisserie, bien sûr, c'est pas un péché en soi, quoique ça peut être une addiction, chacun se connaît en tout cas. Pour certains, donc, une addiction, pour d'autres, des désirs, de la jalousie, de la cupidité, l'avarice, la recherche de la gloire, la recherche du pouvoir, nous sommes loin d'être parfaits. Et la conversion, l'acceptation du salut offert par Dieu n'est pas un changement de vie instantané. Mais comme nous le rappelle ce texte, nous sommes appelés à progresser pour mener une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Si on regarde le verset 14, on peut voir que la victoire de Jésus à la croix a déjà acquis notre délivrance. La grâce de Dieu, elle, agit pour nous éduquer, pour nous faire progresser, nous transformer, au rythme où on est prêt à aller. Mais Paul ne nous invite pas simplement à renoncer à l'impiété, mais il nous invite également à embrasser une nouvelle manière de vivre. Une nouvelle manière de vivre empreinte d'équilibre, de justice, de respect de Dieu. Une vie dans laquelle il nous est dit que nous sommes appelés à être zélés pour accomplir des œuvres bonnes. En fait, au début du chapitre de cette lettre, Paul a détaillé quelques manières de vivre qu'il recommande à Tite d'enseigner. Aux uns, il recommande la maîtrise de soi, à d'autres, de faire preuve de sagesse, aux plus âgés, d'enseigner les plus jeunes, aux esclaves, d'obéir à leur maître, à ne pas frauder. Il recommande également à Tite, en particulier, de mener une vie exemplaire, que son enseignement soit fidèle, que sa parole soit inattaquable. Ce sont là quelques exemples des œuvres bonnes auxquelles nous sommes appelés. Et quel est le but de cette vie transformée? Alors, tout d'abord, comme je l'ai dit, c'est changer les cœurs. Nous sommes ce peuple purifié, appelé à devenir le peuple zélé pour les œuvres bonnes, du verset 14. Et il ne peut pas y avoir de vide dans nos cœurs. Si on ne met pas en pratique ces œuvres bonnes auxquelles nous sommes invités, alors nos mauvais désirs auront place pour s'exprimer. Et le second but, dont nous parle particulièrement le début de ce chapitre, c'est de rendre attrayant le message de Christ. Paul a le souci du témoignage dans la société. Non seulement rien dans notre comportement ne doit venir brouiller le message du salut, mais au-delà, ils sont appelés nos comportements à susciter l'engouement vers Christ. Mais Paul nous met aussi en garde face à un danger. Nous ne sommes pas invités à nous extraire du monde, à nous en couper. Nous sommes appelés à vivre avec nos contemporains, différemment. Un pasteur que je connais disait « Osez craindre Dieu avant de craindre ce que les autres vont en penser ». Et ce texte ne se limite pas à nous rendre témoignage de la grâce divine, à nous enjoindre à vivre une vie transformée. Ce texte nous indique aussi comment progresser. Je reprends au verset 11. « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. » Le troisième verset apporte un éclairage différent sur le temps présent. Nous sommes appelés à vivre différemment, car nous avons un œil fixé sur les temps à venir. Tard en avait longtemps parlé, il y a quelques semaines, notre espérance joyeuse, c'est le retour de Jésus. Lorsque j'avais 14 ans, j'ai passé quelques étés chez un oncle à la ferme, et une des choses que j'y ai apprises, c'est comment rouler un tracteur dans un champ, en ligne droite, malgré les défauts du sol. Comment peut-on y arriver? Il ne faut pas regarder devant soi aux roues du tracteur, mais lever les yeux, avoir le regard fixé au loin, sur un point immobile. Dans notre vie chrétienne, il en est de même. C'est parce que nous gardons nos yeux fixés, nos yeux portés sur le retour de Jésus, sur cette manifestation glorieuse du Christ, que notre route, notre présent, ira dans la bonne direction. C'est en ayant à l'esprit le retour du Christ, la promesse de la vie éternelle avec Dieu, que nous progressons au quotidien. Alors le dernier verset de notre texte reprend ces premières idées. Verset donc nous dit, Jésus-Christ s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui met toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Par sa mort, Jésus-Christ a payé le prix de nos fautes. Par sa résurrection, il a vaincu le mal. Dieu offre le salut. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore fait ce choix, le pardon offert par Dieu n'attend que votre réponse. Mais la grâce de Dieu ne se limite pas au seul salut. Elle nous éduque. Elle nous amène à progresser, changer. Nous sommes appelés à vivre différemment, à réaliser des œuvres bonnes. Mais non uniquement par nos efforts, mais parce que Dieu nous éduque. Gardons les yeux fixés sur cette merveilleuse espérance de son retour. Cela nous aidera dans notre quotidien, à la fois à nous séparer de nos mauvais désirs, mais également à embrasser pleinement cette vie nouvelle que Dieu veut pour son peuple chèrement acquis.